Auditrice, auditeur, bonsoir. Nous sommes le lundi 8 février, il est 20h. Vous êtes sur Radio Judaïka, bien sûr. On joue la prolongation avec toute l'équipe.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Bouc, vous êtes un salaud.
On est ravis de vous retrouver ce soir comme tous les lundis. Ce soir, autour de moi, une bonne équipe, une fière, fidèle équipe. Ah, et si c'était parti pour de bon pour les mauves, hein, on va en parler ce soir avec Henri Daniel parce que son équipe a réalisé un très beau match ce week-end.
Bonsoir. C'est jamais parti, je sais pas ce que vous avez, c'est jamais parti, on a toujours été là.
Non, ce que je voulais dire, parti, ça a démarré quoi.
Mais ça a déjà démarré,
ça a déjà démarré.
On est dans le top 4.
C'est vrai. Écoute, c'est bien. Ah! Bon, que dire,
aïe, 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 aïe.
Que dire de la semaine de son club, l'OM? Il y a beaucoup à dire, justement. On en parlera avec Blaise van der Linden, qui est avec nous. Bonsoir, Blaise.
Bonsoir à tous, et ravi d'être avec vous autour de cette table pour discuter de l'actualité foot.
Bon, pour lui, j'aurais pu jouer une autre chanson, la balade des gens heureux, Gérard Lenormand, par exemple.
Faut pas crier victoire trop vite.
La vie est un long.
Non, mais enfin bon.
17 points d'avance. 17,
ça devrait aller. Oui, son club est a encore fait une belle performance. Hein.
Ah, enfin, j'ai l'impression, oui.
Je crois. Hein.
Un week-end comme les autres.
Les Blauw en Zwart, ouais. C'est business as usual pour le club Bruges. Bravo à lui.
On n'a que 19 points de retard. Hein.
C'est vrai, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ce soir, au menu, je dirais, on va s'entretenir. On va commencer l'émission en s'entretenant avec Olivier Houben, le manager de Waterloo, avec qui on parlera de la situation actuelle du foot amateur. Puis on parlera Jupiler Pro League. On fera le tour un petit peu de notre beau championnat en s'intéressant aux matchs les plus importants. On parlera de la Première Ligue, car en Première Ligue, il y avait un choc, Liverpool-Manchester City, qui a débouché sur une surprise au niveau de l'ampleur du score. On parlera ensuite de la France, une fois n'est pas coutume. On parlera de la France pour évoquer la semaine de l'Olympique de Marseille, mais pas uniquement, du football français qui s'est retrouvé un petit peu... qui est retombé un peu sur ses pattes mais après les difficultés liées aux problèmes de droit TV.
Merci Canal.
On en parlera. Merci Canal, exactement. Mm-hmm. Mais ils ont quand même perdu la moitié des droits escomptés. Hein. Mais bon, on en parlera.
Ou alors, ils ont récupéré la moitié de ce qu'ils auraient pu perdre.
Ce qu'ils auraient pu perdre, c'est vrai. Il faut voir le verre à moitié plein. Et puis, on fera un petit débrief du week-end des Diables et en parlant aussi, malheureusement, il n'avait pas d'actualité ce week-end, de la nouvelle blessure d'Eden Hazard. Et on va se demander s'il ne serait pas temps pour lui de...
Je vais changer d'air.
Plus radical. Qui change d'air, peut-être.
Oui, à mon avis.
L'air madrilène lui fait peut-être pas beaucoup de bien. Pour la première partie de cette émission, on a besoin d'un coup d'envoi, bien sûr. Je vais laisser la parole à Henri Daniel, qui va vous faire une présentation de notre invité, Olivier Houben.
Olivier, qui est le manager, comme il aime le dire, manager à tout faire, du
Racing,
du Royal Racing Waterloo. C'est un club de P2, on va parler avec lui de sport amateur. Olivier, bonjour.
Salut, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue aux éditeurs, bonjour à l'équipe. Merci Henri, c'est gentil pour la présentation. Fais attention à ce que tu dis, parce que ma mère écoute la radio.
C'est ta maman qui est une cheville ouvrière aussi du club. Hein.
non, mais tu as raison.
Donc le club de Waterloo, ça représente combien de monde, à part l'équipe première?
Si on accepte l'équipe première, ça représente à peu près un peu moins de 300 jeunes, parce que le club est en reconstruction, il y en a eu plus par le passé, il y en a eu moins aussi il y a peu, mais le club s'est redressé hein, depuis deux ans, c'est pas un secret dans la région, tout le monde sait que ce club a été aux abois pendant de nombreuses années. pour différentes raisons. Il a fallu plusieurs années pour la saigner. Il a fallu se battre pour qu'il existe encore aujourd'hui. Et voilà, on n'était que quelques-uns. Hein. On pouvait se compter sur les doigts d'une main pour le sauver. Et puis bon, on y est parvenu. Aujourd'hui, on est très heureux parce que le club retrouve un petit peu ses... J'ai envie de dire, c'est du sport d'antan. On y reprend du plaisir. Les parents, les enfants, enfin voilà.
300 doigts, c'est déjà une belle main. Hein.
Oui, c'est vrai, mais bon, il y a pas vraiment de... Ouais, non, mais c'est clair, 300, c'est beaucoup de travail.
Par contre, pour ceux qui font les gants, bonjour.
C'est vrai.
Je vais te laisser au micro de Blaise, qui est très concerné par le football amateur, et qui va te poser quelques questions.
Oui, bonsoir Olivier. C'est vrai que du coup, moi, je le pratique, le football amateur. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche personnellement.
Oui, oui, oui. Je salue ton président Julien de ma part. Oui.
Ah ouais, ça marche. Mais du coup, je voulais vous demander, au sein du club, comment elle a été accueillie, cette décision des autorités d'arrêter complètement toutes les compétitions, même l'équipe première?
Bon, alors, tu parles de la dernière décision.
Oui, celle de la semaine dernière, du coup.
Ouais. Arrêter compétition, très sincèrement, ça a été très très bien accueilli, parce que c'était tellement plus une surprise pour tout le monde que... Ça n'a pas été très très compliqué à assimiler. Franchement, personne ne s'attendait plus depuis un moment déjà à une autre décision. Donc voilà, je pense que c'était la suite logique. Tu sais, il y a un moment où on doit faire la part des choses, quoi. C'est que du foot, hein. Ça reste du foot. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent des drames. Mais je crois qu'on doit se mettre au diapason. Et voilà. Alors oui, les enfants doivent faire du sport, bien sûr. Il y a toute une série de choses qui devaient perdurer. Il fallait travailler et continuer à faire de sorte que les enfants puissent s'entraîner. Ça, c'était très important. Mais au niveau des compétitions, c'était évident à ce stade-ci de la saison que ça valait plus la peine d'envisager même une suite. Ça me paraît évident.
Et du coup, on sait qu'au niveau professionnel, les clubs perdent beaucoup d'argent en termes de billetterie, en termes de merchandising. Au football amateur, comment est-ce que vous... économiquement, comment est-ce que vous vous y retrouvez, principalement avec, par exemple, la fermeture des cafettes et...
Ouais, je peux rassurer déjà les gens au niveau de la billetterie, là, on n'est pas trop emmerdé. Hein. C'est pas pour voir le foot amateur tous les dimanches. Là, c'est sûr que ça a pesé très très peu sur le financier, sur la cassette des clubs. Alors après, c'est vrai, là où le problème devient important, c'est évidemment la fermeture des buvettes, parce que les clubs qui étaient bien gérés, qui avaient gardé une poire pour la soif, ou qui surtout avaient débuté une saison sainement, c'est-à-dire sans cadavre dans le placard, ceux-là ont pu tenir un moment. Mais là, ça commence à devenir problématique. Vraiment, tout doucement. On s'en approche, là, on le sent. Hein, c'est comme le vent, tu vois. On sent bien que ça commence à devenir compliqué. Mm-hmm.
Est-ce que la buvette d'un club, est-ce que ça fait partie intégrante du club en termes de revenus économiques, ou bien ce sont des franchises ou des indépendants qui viennent, qui prennent une buvette? Comment ça se passe?
C'est une question intéressante. Il y a des règles qui ont été mises en place maintenant au niveau des régies sportives dans les communes. C'est-à-dire que je pense savoir maintenant que de plus en plus les buvettes sont gérées par des personnes extérieures au club. C'est heureusement pas vrai encore partout, c'est pas le cas chez nous. Et pour ce qui nous concerne, oui, je peux dire que la recette de la buvette fait partie intégrante, bien sûr, du budget du club, et que sans cela, le club survit difficilement.
Et parce qu'elle est aussi même un lieu de négociation, entre guillemets, pour les clubs, où vous pouvez, entre guillemets, accueillir certains nouveaux sponsors ou des personnes qui pourraient négocier avec vous, par exemple.
Alors, plus la buvette est sympa, plus les gens sont bien reçus, plus c'est accueillant, plus c'est convivial, plus c'est facile d'y faire éventuellement venir de nouveaux sponsors qui, eux, deviennent... C'est pas un secret, je vous apprends rien, de plus en plus rare également. La situation économique globale du pays a rien fait pour arranger les choses. Évidemment, à partir du moment où tout le monde tire à la langue, on va pas mettre de l'argent dans le foot amateur à fond perdu, parce que c'est tout le temps à fond perdu, il faut jamais l'oublier. C'est la plupart du temps, les sponsors sont des sponsors de sympathie. Donc c'est évident que c'est pas la meilleure période pour cela pour l'instant. Pour ce qui nous concerne, par exemple, 2/3 des sponsors cette année n'ont pas répondu présent. On imagine que c'est dû au Covid. Voilà. Mais c'est malheureusement, on vit ce que les autres vivent. Les problématiques des clubs sont les mêmes. Les méthodes de gestion sont différentes. Les chiffres sont différents. Les hommes sont différents, mais les problématiques, des clubs sont les mêmes, quel que soit le club. On retrouve toujours les mêmes problèmes in fine.
Je voudrais vous demander également, vous parlez justement des sponsors, et qu'il y avait deux tiers des sponsors qui n'avaient pas répondu présent. Alors, dans quelle mesure, alors il faut voir qui est la conséquence de l'autre, mais si jamais, par exemple, c'est la situation économique globale qui fait qu'il y a deux tiers des sponsors en moins, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, alors que, entre guillemets, hein, que le sport s'arrête, parce que j'imagine que moins il y a de matchs, moins il y a d'investissements à consentir, et donc peut-être que ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, étant donné la conjoncture économique globale d'avant le Covid, je dirais.
Alors ça, évidemment, il faudrait faire une analyse très précise que l'on pourra faire en fin de saison, mais à vue de nez comme ça, j'aurais tendance à dire que s'il avait fallu jouer toute la saison avec l'équipe première, je pense qu'un grand nombre de clubs auraient été en difficulté à partir du mois de février ou du mois de mars. Ouais. J'en suis quasiment certain.
D'accord. Merci, tout cas pour votre franchise aussi.
Je pense que tout le monde aura vécu à peu près la même chose. Alors, il est vrai qu'il y a des buvettes qui fonctionnent beaucoup mieux dans certains clubs que dans d'autres. Il y a des buvettes dont le chiffre d'affaires représente un pourcentage du budget du club beaucoup plus important dans certains clubs que dans d'autres. Mais malgré tout, les sponsors, ça reste une manne importante. Et quand ils ne sont pas là, pour de bonnes raisons, on ne peut pas leur en vouloir cette année. Franchement... On est déjà content quand ils répondent présent les autres années, donc voilà, parce qu'encore une fois, je le rappelle, ces gens-là n'ont quasiment rien à attendre du sport amateur, donc ils le font la plupart du temps pour le plaisir. Hein.
Bien sûr.
Mais je pense effectivement que de nombreux clubs se seraient retrouvés en difficulté, oui, certainement, oui, alors certains ne le diront pas, moi je le dis, j'en suis certain.
On a beaucoup parlé d'argent, mais du coup, on sait à quel point le foot est un vecteur social pour la société. Et du coup, on sait que les ados ont pu reprendre, si je ne me trompe pas, c'est en dessous de 18 ans pour l'instant. Est-ce que vous pensez que les adultes vont pouvoir reprendre les entraînements, ne serait-ce que les entraînements, avant la fin de la saison? Est-ce qu'on vous a donné des pistes là-dessus?
Non, on ne nous donne rien du tout. Non, mais on ne nous donne rien du tout. De toute façon, soyons clairs, nous sommes la dernière roue de la charrette, nous. Donc, véritablement, nous, on reçoit les informations à peu près au même titre que tous les autres. Tout au plus, la Fédération ou la CFF communique via Kick-Off et nous, responsables de club dont je suis, nous recevons les informations via ce canal de communication, mais traditionnellement ça va plus vite dans la presse, et on sait dans la presse la veille ce que l'on apprend sur Kick-Off le lendemain. Donc, non, on n'a pas absolument pas d'informations. Alors on glane des informations où l'on peut, on nous dit blanc le lundi, noir le mardi. Il y a une tendance pour l'instant, mais je parle de tendance, donc je vais être très prudent, vraiment très prudent. Il y a une tendance qui parle d'une reprise éventuelle, je ne parle que d'entraînement ici, pour les joueurs de plus de 19 ans, au-delà du 15 avril, ou à partir du 15 avril. Mais c'est une tendance, je l'ai entendu.
Sous réserve, évidemment, bien sûr.
Mais sous réserve complètement, parce que dans le même temps, il n'est pas dit du tout qu'on jouera au football en juillet aujourd'hui. Qui peut dire aujourd'hui quand on va pouvoir reprendre, vraiment.
Excusez-moi, je reviens, à une notion purement financière. Est-ce que vous bénéficiez d'aide de l'État? On a parlé de droit passerelle pour les indépendants. Est-ce que des clubs sportifs comme le vôtre bénéficient de certains subsides en plus?
Bien sûr que non. D'accord. Bien sûr que non. Non,
même pas de la ville
pas,
Même pas de la commune?
Excuse-moi, Henri, j'étais très mal entendu, Henri, pardon.
Même pas de la commune ou de la ville?
Alors, on est. Alors là, je suis mal pris. Hein. La question elle est pernicieuse parce que en fait, on aperçoit que quasiment aucun subside. Ça c'est clair. Pour vous donner une idée, nous payons une location annuelle pour ce qui est des installations et de la buvette qui équivaut à 8 à 10 fois le montant du malheureux subside que l'on perçoit.
Ah oui, d'accord.
Donc, ça répond à une première partie de vos questions.
C'est une bonne réponse.
Ouais. Deuxième question, puisqu'on en a parlé d'argent, puisque malheureusement, le foot, c'est ça aussi.
Bien sûr.
Parce que c'est le nerf de la guerre, il n'y a rien à faire. Nous, par exemple, pour pouvoir utiliser des installations et qui sont d'excellente qualité, hein, et qui sont très bien entretenues, j'insiste. Mais néanmoins, vous devez savoir que la location des installations à Waterloo, c'était 25% du budget annuel du club. Je vous laisse imaginer ce que ça représente.
Oui, évidemment.
Donc voilà. Donc non, on peut pas dire qu'on soit aidé réellement. En revanche, il existe à Waterloo, par exemple, pour parler de Waterloo parce que c'est ce que je connais le mieux, une ASBL qui s'appelle l'ASBL Waterloo Sport, qui elle gère les clubs sportifs de Waterloo et qui elle nous a été d'une très grande aide cette année. C'est vrai. Parce que nous avons investi énormément dans le club. On a, dès le lendemain du premier confinement, nous avons fait un choix. C'était où on s'endormait, on regardait le train passer et on attendait que le virus disparaisse, et on a bien fait de pas le faire d'ailleurs. Et, ou alors on se mettait au boulot. Donc on a fait énormément d'investissements, on a fait énormément de travaux sur le site qui ont évidemment nécessité, qui ont eu des coûts. Et je dois dire que là, la SBL Waterloo Sport a répondu présent tant qu'il le pouvait, notamment en termes de main d'œuvre, où leurs équipes ont été très présentes et nous a aidés. Et donc c'est important aussi. Ça compte. Mais en termes financiers purs et simples, non, on n'est pas aidés, évidemment que non.
J'ai une dernière petite question, Olivier. Olivier, oui. J'ai une dernière petite question. On te donne une baguette magique maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en fais ?
40 000 spectateurs et la finale de la Coupe.
Je suis désolé. J'ai vraiment.
On te donne.
Qui entend le moins bien, c'est Henri.
On n'est pas fait pour s'entendre. Non. Si on te donne une baguette magique, tu as un vœu maintenant, aujourd'hui, le 8 février, tu peux faire quoi ?
Je t'ai pas compris, Henri. Je suis énervé. Vraiment.
C'est rien, je garde ma question. On en reparlera.
Je vais poser la question à la place d'Henri, si vous m'entendez
oui,
bien.
Oui, voilà, parce que lui, toi, tu m'entends
très bien. Henri demandait si vous aviez une baguette magique maintenant, et si vous aviez un vœu à faire, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter ?
Oh, moi, je souhaiterais que l'on puisse simplement reprendre une saison normale dès le mois de juillet, que tous les enfants puissent, absolument tous, sans distinction d'âge, reprendre le terrain, retrouver le terrain, du plaisir, et le reste, ça viendra tout seul. Voilà, nous, on est prêts, on a fait tout ce qu'il fallait pour vivre une belle saison l'année prochaine, on a compris rapidement qu'on allait être coincé cette saison, donc c'est, voilà, l'idée, c'est vraiment d'oublier ce virus, que ce virus disparaisse, que les gens revivent bien, parce que dans le foot, c'est un microcosme, c'est le reflet de la société. Je veux dire, les gens aujourd'hui sont tristes, ils sont malheureux, ben dans le foot, on est malheureux aussi, il n'y a pas de raison.
Ouais.
Donc il faut que les gens retrouvent le plaisir et le sourire, et ça passe par l'éradication du virus, évidemment, et aussi par le fait de retrouver les terrains, du plaisir, de pouvoir prendre un pot autour d'un terrain, de se retrouver, de se saluer avec le sourire, ça c'est important. Finalement, il n'y a que ça qui compte, hein, sincèrement.
Merci Olivier pour ce message. En tout cas, merci d'avoir accepté de parler du foot amateur, qui est quand même le poumon du sport, du football qu'on aime. Et puis, c'était une façon aussi de rendre hommage à tous les bénévoles qui se démènent dans tous les clubs.
Si vous me le permettez, une
bien
seconde,
sûr.
Ouais.
C'est saluer tous mes collègues des clubs alentours et même plus loin, qui font le même boulot que nous, qui tous les jours se lèvent pour amuser les gamins, qui tous les dimanches, tous les samedis sont présents sur les terrains, souvent pour pas grand-chose, pour le plaisir, souvent uniquement. Et donc voilà, je voudrais saluer tous ces gens-là qui sont des milliers de bénévoles, de volontaires qui sont présents, dont on parle finalement très peu. On parle aujourd'hui, je parle pas de vous là, hein, je parle pas de la discussion qu'on vient d'avoir, mais dans le foot, on parle beaucoup d'argent, beaucoup de transferts, beaucoup de... Voilà, mais on oublie que sans le sport amateur, sans le foot amateur, il n'y a pas de foot professionnel, et que tous ces gens-là qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps sont les gens les plus importants. Donc je voudrais les saluer. Et au nom de tout le monde, les remercier pour ce qu'ils font. C'est important, vraiment.
Eh ben, on s'associe vraiment à vos salutations, à vos remerciements. On pense bien à eux, à tous les bénévoles qui donnent l'amour du football aux plus jeunes et qui font grandir cette passion chez tout le monde. Merci beaucoup, Olivier Houben.
C'est sympa.
On vous souhaite plein de bonnes choses et justement, que la saison prochaine démarre, déjà qu'elle démarre et qu'elle se passe le mieux possible.
C'est gentil, merci, bonne émission, à très bientôt.
Merci, à bientôt,
beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Et ben voilà, on a fait un bon point sur le foot amateur. Ça nous a permis un petit peu effectivement de prendre un peu de hauteur, parce qu'on parle le lundi soir, on est content de parler du foot pro, on se plaint qu'il y a plus de spectateurs, que c'est pas comme avant les matchs, mais il y en a pour qui c'est plus du tout comme avant.
C'est oui, vrai. Didier. Moi, ce que j'ai surtout relevé et que je trouve que c'est assez rare. Olivier Houben, que je ne connais pas au demeurant, aussi bien qu'Henri apparemment, mais c'est un message d'espoir, et c'était pas quelqu'un qui est venu se lamenter, c'est quelqu'un qui est venu donner aussi une image et je dirais qui est venu donner de l'optimisme aux gens, et c'est assez rare que pour ne pas le mentionner en même temps au jour d'aujourd'hui.
C'est vrai. Et on remercie. Oui.
Je vais dire un mot, Olivier, c'est vraiment quelqu'un qui vit football, qui est né dans le football, qui respire football.
Ah, ça transpirait à travers son.
Ouais. Et qui s'implique dans ce club comme beaucoup. Vraiment par volonté comment dire généreuse quoi.
Ouais.
Moi, altruisme.
Par altruisme. C'est ça le mot que je cherchais.
non c'est vrai, il a bien eu raison de saluer tout le monde. Moi personnellement, mais J'ai deux enfants qui jouent, mon fils et ma fille au Maccabi, et je salue aussi les dirigeants du Maccabi qui font un super travail.
Enfin, il y a juste un truc qui m'a, il y a juste un truc qui m'a marqué, c'est que les clubs soient pas au courant de ce qui va se passer, enfin avant nous quoi. Enfin, c'est quand même assez impressionnant qu'ils apprennent les nouvelles dans le journal.
Ouais. Enfin, c'est vrai que ça.
Je veux dire, pour un président de club, comme on dit, c'est le football amateur qui fait vivre. Et puis Waterloo, ils sont en Provincial 2, c'est pas des chiffres non plus, quoi. Donc franchement, c'est assez impressionnant.
Mais la motivation, elle est toujours la même partout, à quelques étages que ce soit.
Et la passion.
Parfois même, j'ai l'impression que quand tu vois certains joueurs qui gagnent, on va même pas donner de chiffres parce que c'est stratosphérique, tu as l'impression que des gamins ou des joueurs de P2 qui jouent juste pour la gloire ou quasiment, eh bien, ils ont une motivation plus forte que certains. Qui gagne des mille et des cents.
Écoutez, on va presque parler du très haut niveau, puisqu'on va parler d'Anderlecht.
Oh la transition.
Non, ben oui, on va parler d'Anderlecht, bien sûr, puisque les hommes de Vincent Kompany jouaient un match au sommet contre le... Ils étaient deuxième ou troisième? Ils étaient troisième,
deuxième,
je crois,
ex-aequo,
déjà. Deuxième ex-aequo. C'était Genk. Les Bruxellois se déplaçaient à Genk et ils l'ont emporté 2-1. C'était un soir de première, pas mal de premières. Première victoire à l'extérieur depuis le 23 octobre. Ça faisait quand même un sacré bail que les joueurs d'Anderlecht n'avaient pas ramené 3 points de leur déplacement. C'est la première fois de la saison, figurez-vous, qu'ils ont gagné après avoir été menés. On sait qu'ils ont souvent mené et qu'ils se sont fait rattraper. Cette fois-ci, ils ont réussi l'exploit inverse, puisqu'ils étaient menés, ils ont réussi à gagner. Et puis, le premier but d'un joueur, Anouar Ait El Hadj, ce jeune joueur qui a marqué son premier but. Je vous propose qu'on débriefe un peu ce match. On va commencer avec Henri. Qu'est-ce que... tu as pensé de la prestation?
Facile contre l'équipe qui est deuxième du championnat. Donc on a pris 6 points sur 6. Contre eux, c'est facile. Non, trêve de plaisanterie. Mature, j'ai trouvé ça assez mature malgré les clés qui avaient été mises entre les mains de Samuel Okonga et de Ait El Hadj. Donc 18, 19 ans, 20 ans.
Ouais, les jeunes de la maison.
Au final, c'est grâce à eux la victoire.
Ouais, ils ont vraiment participé activement à ça. J'ai aimé le... On l'avait souligné pour Bruges la semaine passée, la semaine d'avant. Ils encaissent un goal, mais ils ont confiance dans leur football et ils continuent à jouer leur jeu, ce qui a été fait. Le premier but pour la première fois, c'est vraiment une sortie.
Exactement. Ouais. Et puis, ouais, tu le disais, ils ont encaissé un but en plus sur une erreur. Bon,
mixte, quoi.
Ouais. Mixte. Ouais. Toi, je sais que tu es plus pour mettre une partie de la faute sur Miazga. Moi, j'ai trouvé que la passe était
quand même
mal donnée.
Elle est
dangereuse, en tout cas. Effectivement, Miazga, qui lui est face au jeu, devrait peut-être essayer d'être un peu plus réactif.
Bongonda, je pense qu'il y a, en théorie, ils ont dû les voir comme les vidéos de Bongonda qui.
Ils doivent savoir qu'il court.
Voilà, qui court assez vite.
Qui court assez vite.
Donc, je pense qu'il fallait jouer l'anticipation. Il a attendu le ballon, donc je pense que c'est une erreur. Bon, c'est un fait de match, mais je me demande si ça n'a pas servi.
Peut-être, oui. Et en tout cas, ce que tu disais, c'est que ça ne les a pas désarçonnés. Ils ont réussi à égaliser. Et en plus, en appliquant les principes prônés par Kompany, on a été souvent, surtout ici, on a été prompt à leur tomber dessus en disant oui, mais on ne peut pas jouer comme le Barça si on n'a pas les joueurs du Barça ou Manchester City. Là, sur le but égalisateur, ils sont tout près de perdre le ballon, mais ils jouent quand même. Ils font une sortie de jeu au pied. Le gardien dégage pas n'importe où, ça dégage et puis ça sort court. Et puis ensuite, il y a un beau renversement de Kullen.
Alors sur le reste du match, ils ont aussi gardé certains principes comme tirer à côté.
Ça, oui.
À des occasions.
Ryan Mensah a fait ça. Voilà. 68e, je crois, il a mis un tir à côté. Bon.
Oui.
Faut pas. Non, c'est vrai. Je pense que le ballon n'a pas souvent roulé pour Anderlecht. Il faut être honnête cette saison-ci. Mais dans ce match-là, après, on peut refaire le match mille et une fois. Le but qu'ils encaissent, c'est un but extrêmement précoce. Après, le cadeau ou la malchance de Vukovic, c'est ça?
Oui. Vukovic. Ouais.
Ça remet Anderlecht dans le match. Si ça reste 1-0 et que ça perdure, le doute s'installe, le stress aussi.
Alors, on a dit ça la semaine passée. On a dit ça la semaine passée contre la Gantoise, c'est 0-0. Si Moukaïrou, par exemple, met ce goal, ok, Anderlecht.
C'est Mukairu.
Voilà, mais Mukairu, il...
Oui, mais c'est différent, c'est 0-0.
Oui, oui, d'accord, mais ici, tu vois, j'ai jamais fait de match, effectivement.
Alors, pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas vu les images, Anderlecht égalise, donc on l'a dit, c'est un joli mouvement à la base pour sortir le ballon. Et puis la balle arrive à Amoudzou, qui envoie un missile, vraiment une très belle frappe, sur le poteau du gardien, et le poteau renvoie le ballon sur le dos du gardien de but.
C'est bien visé,
pas le
quand
poteau
même
du gardien.
Pardon, j'ai dit le poteau du gardien. Enfin, c'est sur le montant du but.
Il est en forme, Vukovic, mais quand même.
Bah, avouez que c'est bien visé quand même.
Et puis taper le poteau et ensuite le dos, c'est compliqué. Mais c'était très bien visé. C'était une belle frappe. Ouais. Ça rebondit sur le dos. Moi,
je travaille à l'entraînement, ça, je suis sûr.
Certains. Pour les anciens, moi, ça m'a rappelé un penalty qui avait été marqué par Bruno Bellone en quart de finale de Coupe du Monde 86 contre le Brésil, France-Brésil.
Ça, c'est
tiré.
Des grands.
Voilà.
Ah, j'ai vu beaucoup de reportages sur ce match.
Et non, effectivement, Anderlecht a de la réussite, mais bon, la frappe est très belle et on peut penser que ils ont de la réussite parce que le ballon touche le gardien, mais quelques centimètres plus à gauche, il va directement dans le but et il n'y a pas de discussion.
Donc, y a les deux jeunes, évidemment, on a parlé de.
Et oui, et ils sont tous les deux donc impliqués sur le deuxième but.
Voilà. Donc c'est une passe décisive de Lokonga. Il y a un contrôle un petit peu bizarre d'Aït El Hadj, mais par contre un enchaînement fulgurant, une reprise de volée. Ce que je veux dire, c'est que depuis quelques semaines, j'avais souligné, je trouvais qu'Amoudzou reprenait du poil de la bête.
Ouais.
Il est récompensé ce soir. Aït El Hadj s'est installé gentiment. Vous vous souvenez de Michel Vlap?
Qui?
Oui.
Voilà.
Bambi.
Oui, il l'a...
Il l'a mis en poche, quoi.
Ouais.
Michel Lapp est parti à Bielefeld. Ouais. Je veux dire, ça récompense aussi Lokonga qui était blessé, qui est revenu, qui maintenant, Chouva, a pris sa place. Kullen, j'en avais parlé la semaine passée, je préfère très belle. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé en semaine. Peut-être que physiquement, il n'était pas au point.
Ouais, je pense qu'il est... Parce que même quand il est rentré, il avait un peu du mal. Enfin, pas techniquement, mais physiquement, il a perdu 2-3 ballons qui... Très belle, ne perd pas normalement.
Je pense que le triangle sera... Enfin, il sera dans le triangle d'entrée.
Mm-hmm. Compagnie a dit de Kullen, en parlant de lui forcément, il a dit c'est le genre de joueur qui va courir 13 km 500 avec une jambe cassée. Ouais. Donc je ne suis pas certain que Trebel aura grâce aux yeux de Compagnie de la même manière.
Ouais, puis sur l'égalisation, il fait un beau... Non, pardon, c'est là, c'est... Non, je confonds, c'est pas Kullen qui fait le renversement sur...
Non, c'est Brune Larsen.
Brune Larsen, pardon.
Qui fait d'ailleurs deux bons matchs. Hein. Ouais. Franchement, il a bien dynamité cette attaque.
Il pouvait conclure.
Mais il apporte, tu vois, un peu de vivacité dans cette attaque qu'ils avaient un peu perdu avec le départ de Doku l'année dernière. Ouais. Bon, il y avait encore Amoudzou d'un côté, mais ça... Enfin, quand il a la balle, on sent que quelque chose va se passer, même si...
Il rentre plus dans le jeu. Hein.
Voilà, exactement. Et ça se voit sur ce renversement, où il est quasiment à la moitié du terrain quand il fait cette passe.
Encore juste un petit mot sur Murillo, qui est revenu à son niveau. Je trouve que... Je sais pas, on a fait beaucoup jouer Sardella. Il m'avait pas convaincu. Je trouve que...
Moi non plus.
Non. La défense d'Anderlecht n'a pas fort convaincu, sauf notre ami Martinez, puisqu'il y avait quand même quelques joueurs qui avaient été retenus. Et quand je dis ça, c'est sans ironie bien sûr. Mais
Hannes Delcroix.
Cobot avait été repris en son temps. Mais bon, voilà, je trouve que c'était encourageant. J'étais inquiet la semaine passée.
C'était encourageant, je crois.
Je trouve que c'est une belle récompense.
Ouais, Vincent, on va l'appeler Vincent. Vince. Il avait l'air aussi très, très heureux.
Pour ses hommes.
Pour ses hommes, bien sûr. Et effectivement, ça doit faire plaisir. Ça doit lui faire plaisir de.
Est-ce que il y a une image dans le match, c'est que sur un corner, c'est Aït El Hadj qui tient Onuachu. Je sais pas si vous avez vu cette image. Il y a 60 cm d'écart entre les deux joueurs. je sais pas, je comprends pas que tactiquement. Ou alors c'est vraiment pour l'emmerder, pour l'avoir dans les pattes, et c'est un choix.
Toi, tu prendras au marquage le plus grand de l'équipe adverse. Mais coach, je fais 1m65. C'est pas grave.
Donc c'est David contre Goliath, voilà. Et c'est David qui gagne.
Bah écoutez, non, mais il a, c'est une belle.
À part ça, ça rend intéressant la fin de championnat, parce que vraiment, pour les places 1, 2, le 1, on va dire.
Le 1 a l'air plutôt bien.
19 quoi. Points.
C'est quoi
mais, 9 et demi en réalité.
Mais la 3 et la 4. Il y a Ostende qui revient bien dans le coup, qui revendique une place dans les 4. Il y a le Standard s'il perd pas des plumes comme il a fait à l'Anderlecht.
On va en parler. On va parler de tout ça. Si vous n'avez plus rien à dire sur Genk Anderlecht, je sais que vous pourriez passer.
Oui. Juste un petit mot pour souligner. Alors, ça n'enlève rien à la victoire d'Anderlecht, bien évidemment. Mais c'est vrai que Genk est dans un creux de vague. Mais alors,
extrêmement déçu sur ce match par Genk.
Absolument. Ouais.
Mais
absolument.
Je voudrais quand même, parce que quand ils ont joué contre Charleroi, c'était la victoire la plus probante avant celle-ci. Ils ont battu Charleroi à 3-0. On s'est dit Charleroi n'a pas joué, mais cette fois-ci Genk n'a pas joué. Donc quand même, je pense que tactiquement.
En fait, quand on les gagne les matchs, quand les adversaires.
Non, mais je pense que
ils arrivent à les faire déjouer justement.
Voilà, exactement. Quand ça se répète, je pense.
Espérons-le.
Mais c'est vrai.
Le championnat.
Déçu de Onuachu notamment.
Mm-hmm. Depuis la fin de la trêve. Du coup, c'est plus ça. Hein.
C'est plus difficile. Oui, ils avaient fait une belle remontée fin d'année.
Ça nous arrange, à part ça. Hein.
Je comprends.
Oui, parce que c'est un concurrent direct, en plus.
Ah oui, vraiment.
C'est pas comme aller prendre des points sur une équipe que... Voilà, pour le moment, les places vont être extrêmement chères. Ça va être...
C'est pas comme aller prendre des points à Westland Beveren, par exemple.
Encore qu'il faut y aller. Hein.
Il faut y aller. Oui, mais bon, s'il faut aller partout dans ce cas, puisque Westland Beveren, c'était
Des équipes difficiles. C'est les équipes comme ça, c'est vraiment des laborieux.
Il va nous faire pleurer. Hein.
Non, c'est pas du tout pour...
C'est des équipes qui jouent à 7 derrière.
Ouais,
ah, ça, on en parlera tout à l'heure, puisque Mbailey, c'est plein du jeu de OHL.
Justement.
Donc, Westland Beveren recevait le Club Bruges 0-2, la Lanterne Rouge recevait le leader. Tout va bien pour le Club Bruges. Philippe Clément s'était permis. Il avait mis Charles de Ketelaar sur le banc. C'était Okereke qui jouait en attaque avec Bas Dost et surtout.
Et mon petit Noah.
Le petit Noah Lang qui.
Il a éclaboussé la rencontre alors qu'il ne neigeait pas encore, mais d'une classe. Enfin voilà, je veux dire, ce gars, c'est.
Facile.
Ouais.
C'est juste une merveille.
Je sais pas combien de temps il va rester à Bruges, je souhaite le plus longtemps possible. Ouais. Moi, il me fait un petit peu penser à Neymar.
Physiquement,
la coupe de cheveux. Non, mais il part quand il part de son côté, il rentre, il s'infiltre, il fait pas autant d'arabesques et de dribbles.
Tu veux dire qu'il se roule pas par terre?
Ça non plus, mais, mais non, il a vraiment, vraiment quelque chose. Donc, il a marqué à la 12e minute, il part de la gauche, il rentre à l'intérieur du jeu, une belle frappe, un but, il dribble un joueur, il accélère pour éviter un tacle, c'est vraiment.
Ce que j'apprécie le plus.
Très belle action chez
ce joueur, c'est que, la réponse est dans la question, en fait. Il y en a que tu vois, des footballeurs que tu vois, tu te dis, ils bossent, ils travaillent. Lui, il joue au football, il ne travaille pas au football. Tu vois un Vormer, t'as l'impression, tu vois que ce type fait du taf, il travaille. C'est un laborieux et ça n'a rien de péjoratif.
Non, il en faut, bien
mais
sûr.
Noah Lang, c'est un gars, il prend du plaisir. Un petit peu comme, moi je faisais un parallèle à l'époque et je disais, la différence entre Hénin et Clijsters, Hénin travaille, Clijsters joue. Et... elle perdait beaucoup plus, elle a eu beaucoup moins de titres, tout ce que tu veux, mais tu sentais ce plaisir et ce côté un peu presque dilettante, malgré que ce sont des grands professionnels. Il a une joie de jouer, ce gars. Il a un sourire.
Il apporte quelque chose au championnat.
Une fraîcheur énorme.
Je ne vois pas dans quelle équipe on pourrait comparer.
Personne.
Peut-être Mercier un peu, mais c'est encore différent. Mercier.
C'est pas vraiment le même poste. Non. Mercier, c'est plus un donneur de ballon, alors que là, Noah Lang, c'est...
Je disais Mercier dans le sens où il s'amuse et il essaye des choses.
Ouais.
En plus, il n'y a personne qui arrive. Techniquement, quoi. Waouh.
Ouais, non,
c'est juste...
Il a un petit peu confiance en lui aussi, parce qu'il se lance dans des trucs.
Mais oui, mais il est réussi.
C'est ça, c'est magique.
Au bout d'un moment, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, quand tu peux gagner une fois, tu peux gagner deux fois, mais il n'y a plus de hasard. L'aile ou la cuisse.
Voilà. non, et puis j'ai l'impression que le puzzle se met de mieux en mieux en place. J'ai l'impression que le Club Bruges a fait sortir les joueurs qui étaient peut-être un petit peu...
qui posaient problème.
Ouais, qui posaient problème, et que du coup, on a une équipe
Sauf un qui n'a pas posé problème et qui a rapporté de l'argent, c'est Diatta. Parce qu'il est...
Oui.
C'était vraiment...
Non, je ne pensais pas du tout à lui, je pensais à Denis plutôt, et voilà. Deli, il est... Bon,
il est prêté,
voilà. Non, mais j'ai l'impression que du coup, l'ossature s'est vraiment reconstituée. Il y a un noyau fort, il y a eu l'arrivée de Bas Dost, on en a parlé, il y a eu les...
Le retour surtout maintenant de Dancewheel. Dancewheel qui remplace avantageusement, de mon point de vue, Dilly, parce que lui, il connaît Bruges comme sa poche. Il y a quand même évolué quelques saisons. Et bon, il fera des toiles comme Dilly, mais Dilly était le prenait un petit peu trop à l'aise, malgré que c'était un surdoué aussi, hein, d'une certaine manière. Le jour où il aura mis toutes les pièces, toutes les frites dans le même sachet, ce sera un très grand défenseur, selon moi. Mais là, pour le moment, il fait perdre trop de points par sa nonchalance.
Ouais, j'ai une question. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un Dirard?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Pourquoi te priver d'un
Dirard? Pour la rotation.
Ouais.
Pourquoi te priver d'un Dirard quand tu joues sur trois fronts, quand tu peux l'avoir à un prix qui est dans ton budget, et que ce type connaît ton club, mais par cœur, de fond en comble? Je ne veux pas dire qu'il a été formé là, mais c'est presque ça. Why not? Et qu'en plus de ça, il est motivé comme jamais.
Oui, et sans doute,
rien.
À son âge, avec la carrière qu'il a, il n'aura pas de revendication particulière, il sera content.
C'est ça ma question.
Mais c'est dans son contrat.
Ouais, ouais,
il a accepté de faire banquette quand on lui dira de faire banquette. Donc c'est pas le gars
qui
va poser
des problèmes.
C'est
dingue de mettre ça dans un
contrat. Non, mais c'est un contrat tacite, évidemment. Mais c'était ce
qu'il comprends.
Dit. Les deux
on
joueurs,
lui a pas fait de promesse.
Ils ont ramené Dirard et Chang, et les deux savent que ils doivent respecter le choix du
Chang,
coach.
Chang, il va pas rester sur le banc très longtemps.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Il y est déjà pas.
Ouais.
Mais cela dit, il faut voir il va pouvoir sortir, parce que s'il y a trop de joueurs qui jouent bien, il va faire un turnover, parce que comme tu l'as dit, il a des échéances. Mais Chang, quand je disais les pièces du puzzle semblent assembler, il est en montée à la mi-temps, je crois, ou un peu après. On a vu c'est un Néerlandais. On a vu le sourire sur le visage de Bas Dost quand il est rentré. Ils se sont serrés dans les bras, ils étaient contents. Et avec Lang, qui avait dit beaucoup de bien de lui.
Vormer.
Van Aken, j'ai l'impression que ça va peut-être lui retirer de la pression, même s'il n'a pas l'air de subir vraiment la pression, mais qui va être encore plus tranquille d'avoir ces joueurs-là il n'est pas obligé de faire le jeu lui.
J'ai ton avis aussi. La différence, c'est que ces gens vont toujours aller. Ils vont travailler dans le sens, ils vont toujours partir, faire des courses. Et donc, ça va libérer le marquage sur Van Aken, qui aura plus de temps pour visualiser le jeu et faire la passe adéquate. Maintenant, l'intérêt d'avoir des Noah Lang,
comme
des Bas Dost, d'avoir des Noah Lang, des Bas Dost ou des gens comme ça, c'est des gens qui réfléchissent à la vitesse Van Aken, à la vitesse De Bruyne, par exemple. De Bruyne, si tu le mets avec un joueur qui se dit, qui attend que la balle parte des pieds, il n'en fera plus une bonne. Donc, ils vont se créer ça, et Van Aken n'est jamais aussi fort que quand tout peut se passer en un temps. C'est un accélérateur de particules juste incroyable, malgré sa lenteur à la course. Enfin, c'est très relatif, sa lenteur à la course.
Les faux lents. Voilà.
Et si je peux me permettre, je voudrais juste mettre un petit peu quand même un bémol au grand enthousiasme. La victoire à Westland n'a pas été aussi évidente que ça. C'est 0-2, ok. C'est le deuxième but à la 95e.
Il y a une occasion pour Westland à un moment qui est vraiment gros.
Absolument, absolument. Donc, ça n'a pas été aussi simple, parce qu'effectivement, ils ont mis le bus, c'est clair, et que quand tu joues contre des équipes comme ça, et je disais, ce sont des laborieux, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est des gens qui bossent, qui vont comme des morts de faim, et quand t'es premier du classement, et c'est pas toi qui vas me démentir, Henri, Anderlecht l'a été plus qu'à son tour, chaque fois que tu te déplaces, tu te retrouves devant des équipes pour qui c'est le match de l'année.
Avoir de la mémoire,
ouais, et puis même, c'est samedi soir, il faisait super froid, il y avait de la neige, enfin, c'est pas le match le plus...
J'ai entendu ta remarque.
Pardon. C'est pas le match le plus... Non, non, mais c'est certainement pas le match le plus sexy à jouer pour le club rouge. L'un de vous vient de dire qu'il y a eu une occasion, il y a eu des occasions aussi, côté Westland Beveren, il y a eu une frappe de Manjek, sur laquelle j'ai noté, il faut essayer de trouver la petite bête, il y avait un petit manquement, je trouvais, sur le repli défensif des médians.
Il avance tout seul, et
bon, il y a eu un petit déséquilibre. Contre des équipes comme ça, ça posera pas de trop de problèmes. En tout cas, ils ont réussi à régler le problème.
Ça frappe, Mignolet peut tout Mignolet qu'il soit, peut rien faire. Hein.
Mais moi, je sais pas. Et puis oui, il y a un beau match aussi. Il faut aussi souligner que le gardien de but de Westland, Nordin Jakers, a fait un bon match. Et que sans ce match, il peut y avoir 3 ou 4-0 à la 70e minute.
À un moment, il y a une occasion justement de Chang où je sais pas pourquoi il fait un contrôle avant de frapper, alors qu'il doit frapper en intense.
Il aurait dû faire comme
évident.
En coupe. Comme en coupe. Comme en coupe.
Exactement. Ouais, c'était bon. Et bah, du coup, il fait un super arrêt, le gardien. Mais
Par contre, moi, il y a un truc qui m'a inquiété. C'est la deuxième fois en deux matchs que Bastos rate l'immanquable, en fait.
Ouais.
De vrai, hein.
Et là-dessus, oui, effectivement. Ouais. Et bien, là, il rate l'immanquable pour nos auditeurs qui.
Ouais. Il frappe.
Il frappe Bastos. Jackers la repousse. Et donc, il est au sol et il tire au-dessus.
Excès de confiance.
Excès de confiance.
Il nous a fait une Gundogan, mais on y reviendra.
Une joie au classe.
Mais bon, quand c'est pas Dost qui marque, c'est Noah Long.
Bien sûr, mais je veux dire, autant il marchait sur l'eau, le Bas Dost, il va falloir qu'il se reprenne un peu, qu'il s'applique, parce que ça ne vient pas non plus comme ça.
Et puis,
il va faire un tour sur le banc.
Pour pour les stats, c'est une assise de Chong quand même pour. Ouais. Noah Lang.
Il me fait penser à Higuita. Vous vous souvenez d'Higuita, le gardien colombien, avec sa coiffure, à part qu'il est noir de cheveux, tandis que l'autre est blond. Mais...
Ah non, c'était noir. C'était Valderrama.
Mais Higuita, le coup du scorpion.
Exact. Non, moi, en tout cas, il me tarde de voir Bruges en Coupe d'Europe.
Mais tu ne vas pas attendre longtemps.
Non, je pense qu'on va. J'espère qu'on est à l'aube d'une. Une épopée, carrément.
Il y a des vraies chances. Hein.
Bah, si c'est pas cette année, j'ai l'impression qu'on est occupé de construire Bruges pour l'an prochain aussi.
Ils tirent qui encore ?
Kiev.
Kiev, dont on ne sait pas.
Ça devrait passer.
Ça, on ne peut pas dire, parce qu'à ce niveau-là, voilà. Il ne faut pas jouer dans l'Union non plus. L'Union, ce sera comme ça.
Non, mais c'est vrai que dans les circonstances, on dit toujours, alors ça doit peut-être se vérifier, on n'a pas les statistiques sous les yeux, mais quand on joue contre des équipes de l'Est qui sont dans un moment particulier de leur championnat.
Ils n'ont même pas repris, là. Ils sont encore à Marbella, en stage. Oh, voilà.
Donc, ils vont avoir un choc thermique.
Et bonne chance aux Brugeois d'aller aller jouer à Kiev en février.
Ouais. Ça va. La météo est propice en ce moment.
Écoutez, on va passer au prochain match. Le prochain match qu'on va débriefer, c'était le derby anversois, le Berscott contre Antwerp. Sixième titularisation d'affilée de
Didier
Lamkelzee.
Et quoi, il en a 5 buts en 6 matchs là.
Il est 5 buts sur les 5 derniers matchs, je crois. Ouais, non, il est.
Mais c'est exceptionnel, ce gars, parce que.
C'est le match, c'était son match.
On ne parle que de lui tout le temps. Ce gars est juste imbuvable, à part qu'il a un talent, mais juste stratosphérique lui aussi. Mais on en parle tout le temps. Marc Delire sur Eleven Sports, c'est là que j'ai regardé le match, ils ont parlé de Lamkelzee pendant 90 minutes. Le match a duré 6 minutes, à vrai dire. Hein. De la 83e, avant ça, on n'avait rien. De la 83e à la 90e, on a eu tout ce qu'il fallait voir. Tout le résultat, on n'a parlé que de Lamkelzee. Alors après, je te dis pas, quand il est allé s'asseoir en tribune,
voilà.
Marc Delire mort de rire, ça rime en plus.
La tête de Verkotteren, je m'assure.
C'est ça. Parce que la première, on va aller dans la première période, c'était une période engagée, mais alors très pauvre en occasion.
C'est
rien passé.
C'est un euphémisme.
Et comme tu l'as dit, on a dû attendre les 5-6 dernières minutes. Et à la 84e, but de Didier Lamkelzee.
Et quel but? Parce qu'il faut mettre sa tête, là.
Il va mettre sa tête.
Surtout après avoir couru pendant 85 minutes derrière le ballon.
Il va mettre sa tête. Mais là où certains mettraient pas les pieds.
C'était une tête plongeante,
une belle passe de Gélin. Et donc, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? Il ne trouve rien de mieux à faire, Didier, que d'aller s'asseoir en tribune.
De croiser les jambes
et de regarder un peu. Et effectivement, ce qui est le plus amusant, je trouve, c'est la tête de Francky Verkotteren qui le rappelle. Alors, Didier,
Un
carton jaune.
Alors, oui, il l'a pas reçu.
Ouais.
Il ne l'a pas reçu. Ah, je ne l'ai pas vu, moi, sur l'encart de la télé.
En tout cas, il l'a demandé, quoi. C'est vraiment.
Ah oui, clair. Et je pense que Verkotteren était furax à cause de ça. Plus que pour le geste lui-même, parce qu'il n'a rien fait de provocateur.
Non, mais c'est vrai que c'est...
Il est allé s'installer en tribune qui sont vides, hein, il faut le rappeler aussi. Donc il y a de la place, mais il n'a pas été s'asseoir sur les genoux de qui que ce soit. Mais bon, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il n'a pas respecté les distances.
Ah non, il est respecté. Non, il ne s'est pas assis sur une chaise, où il y avait, sur un fauteuil où il y avait écrit que c'était autorisé. Hein, je sais pas si c'est... Mais c'était bien amusant.
Il l'a reçu à la 85e.
Ah oui, alors d'accord, alors il l'a quand même eu.
Peut-être qu'en télé, c'est pas passé.
Ah non, moi je ne l'ai pas vu l'encart passer. Donc il l'a quand même reçu. Donc il lui manque clairement des nicknacks.
Il l'avait.
Et puis deux minutes après, but de Gerkens à la suite d'un
très beau mouvement,
d'un beau mouvement, ouais. Un contrôle difficile de Depau.
Mais initié par Lam Kelzer, oui, il ramasse un tampon, il hurle.
Oui, on l'entend.
Absolument.
On pense qu'on va ramasser les pièces du puzzle, tu vois. Et puis il y a goal et j'entends Marc Delisle parce que les caméras n'étaient pas dessus, c'était quand même à 35 mètres. Et Marc Delisle dit mais il court comme un lapin, mort de rire, quoi, mort de rire. Le type, voilà, c'est Lam Kelzer, quoi. Tu sais quoi? On
ça fait du bien.
10 minutes et on se marre.
Mais on se marre. Il met du. Voilà. On va finir avec les actions du match. 89e minute, but de Franz et 13e assist de Holzhäuser. Qu'on salue.
Pourtant, par contre, en but, il est plus du tout là. Hein. Il marque
non,
plus du tout.
Marque
là. Je crois que c'est
tout.
Le 11e match d'affilée où il a pas mis un but. Donc
ça commence à
coincer pour Holzhäuser là.
Ouais. Alors il est premier quand même avec Mercier. Ils sont premier tous les deux en assist, mais effectivement il n'a pas marqué depuis longtemps. Et après il y a eu une interview de Didier Lamkelzer encore.
J'ai raté ça.
Il y a une petite interview sympa. Il s'est excusé auprès des supporters pour ses divers gestes en disant que le club lui avait demandé d'améliorer son comportement, ce qu'il était en train de faire. Et quand on lui a demandé avec Frankie Vercoteren, ça se passe bien. Et il a dit, ouais, avec Vercoteren, je crois que c'est un deuxième Bologna.
Ah oui, d'accord. Bah oui,
bah oui, c'est exactement les mêmes.
Donc, Bologna voulait le...
Il voulait partir au Panathinaikos pour le rejoindre. Donc, écoutez, c'est une bonne... C'est vrai que c'est une fraîcheur dans le championnat.
Ouais.
Voilà, un animateur du championnat, il nous fait...
Maintenant, pour la petite histoire, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas toute l'affaire, il avait défrayé la chronique parce qu'il voulait forcer son transfert.
Oui, il voulait forcer son transfert.
Et donc, on l'a vu, il est arrivé au stade avec un maillot d'Anderlecht, et puis alors ça a fait tout
il
un tollé.
B.
Et puis il était dans le maillot B, et puis alors comme ça ne suffisait pas, il s'est fait un selfie avec le maillot du Berscott. Et pour un supporter de l'Antwerp, s'afficher avec le truc du le maillot du Scott, mais il n'y a rien de pire, je crois que c'est une insulte juste insupportable. Et donc je trouve qu'il a bien répondu sur le terrain, parce que la défaite du Berscott, c'est la victoire de Lam Kelzer, pour le coup.
C'est vrai.
Et donc quelque part, ses détracteurs, il a pu prouver, vous voyez, pour quel club je vibre et pour quel club
est-ce
je
est-ce que c'est
je
lui qui a donné un coup à Mbokani pour que ça... à l'entraînement, tu vois.
Tu joueras pas.
Bah, pour le moment, il n'y a pas photo. Mbokani, c'est un finisseur hors pair, mais au niveau de la créativité, c'est pas pareil. Enfin, Lam Kelzer,
ouais,
c'est un surdoué. Hein.
En termes de football, il ne joue pas à son poste de prédilection. Quoi.
Non, du tout. Du tout.
Et il fait chapeau.
Il est au four et au moulin. Le mec, il est en défense. Je sais pas, il joue comme un mort de faim, alors qu'on aura l'impression que ça peut être une diva. Et je reviens un instant sur la différence entre Neymar et Noah Lang, c'est qu'il y a une humilité qui émane de Noah. Oui, ça, bien sûr. Mais il y a une humilité qui émane d'un Noah Lang. Que Neymar
c'est facile d'être humble quand tu joues à Bruges et que t'as 22 ans aussi. C'est
oui,
un peu moins facile.
Neymar, c'est Neymar. Hein.
Ouais, mais quand il avait 22 ans au Barça, il était un peu plus humble que maintenant, tu vois.
Il y avait le parrain qui jouait à côté de lui.
Ah oui.
Il y a des Hollandais à 22 ans qui s'appêtent. Hein.
C'est vrai.
Ouais,
non, c'est surtout ça en fait. C'est pour un Hollandais.
Oui, pas mal.
On plaisante, hein. Rien contre les Hollandais en particulier. Surtout à Bruges. Surtout à Bruges.
Quel joueur.
Avec toute cette belle colonie. On passe au standard. Steve Gris n'est pas avec nous ce soir, on le salue bien.
On le salue bien, l'ami.
Et on va parler du standard. Le standard, deux choses. On va parler du match, et puis ensuite des réactions, notamment celle de Mbailey, qui était passablement agacé par son homologue de OHL, oui.
C'est quoi qui l'a énervé? Parce que je vais pas le dire, j'ai l'application DH, mais je suis pas abonné, donc je suis resté sur ma faim.
Ce qui l'a énervé, c'est que Mark Bryce a changé son 11 à la dernière minute, alors qu'ils avaient la feuille de match prévoyait un certain 11, et quand ils sont présentés sur le terrain, il y a eu un changement.
Tu veux pas demander les vidéos des entraînements aussi tant qu'il y a...
Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on va en reparler, parce que je trouvais bon.
Ouais, c'est un gentleman agreement, quoi.
Ouais, bon.
Bah, c'est vrai que si ça se passe chez tout le monde comme ça, alors si c'est tacite, alors il faut que tout le monde...
Non, mais on va en reparler parce qu'il n'y a pas que ça qui est ressorti de son...
D'accord.
De ce qu'il a dit.
Je pense que Mbaye, hein, en général, lui, reste dans...
Je pense qu'il était énervé par ça, ça lui a fait dire d'autres choses.
D'abord le match.
Mais parlons d'abord du match, oui. Un match qui s'est conclu donc sur le score de 1 partout, un match qu'aurait pu remporter le standard, qu'aurait dû même, deux énormes occasions en première période pour Joao Klaus, qui a loupé vraiment, a manqué de réussite, on va pas dire que c'est manque de talent, non?
Non, il doit en mettre au fond.
Il doit en mettre au fond, il a vraiment deux occasions nettes en première période, en deuxième, il a aussi une tête au-dessus sur un beau centre de l'Estienne. Et quant au, mais c'est donc au HL qui va inscrire le premier but sur une classique French Connection. Mercier pour Henri.
Et ça aussi, c'est une action. On parlait tout à l'heure d'une belle action. C'était, je sais plus quel match. Bref.
Anderlecht.
Quelle action sur ce but. C'est ouais. Incroyable.
Il y a une belle action et il y a aussi une passivité ouais. des défenseurs parce que quand sur le centre, enfin la passe que donne Mercier.
On sait que ça va vers Henri quand même.
Et puis on sent les, comme ils savent tous que ça va aller vers Henri. Il y en a 4 ou 5 qui sont attirés vers la surface et au moment où il donne sa passe, je pense qu'il doit avoir 3 mètres il est seul dans un rayon de 3 mètres, il n'y a personne pour venir le gêner.
Alors qu'on connaît son pied, donc le laisser juste devant la surface tout seul avec la tour devant,
c'était risqué et donc malheureusement les Liégeois ont encaissé là-dessus. Ils vont avoir la force et l'abnégation. Ils vont mettre tout ce qu'ils peuvent pour égaliser. Ça va arriver à la 84e minute. C'est Joao Klaus qui coupe un centre de Jans au 5-50. Ils ont perdu 2 points, mais Mbaye Ley a surtout voulu insister sur l'esprit qui a animé ces joueurs qui n'ont pas renoncé. Et puis, il s'est fait le chantre du football offensif, surtout, donc c'était en réaction à ce qu'avait proposé l'équipe de Mark Bryce. Alors, effectivement, ce qu'a dit Mbaye Ley, c'est qu'il devait être sans doute pas très très content de ce qu'avait fait Mark Bryce. Comme tu l'as dit, Henri, c'est généralement un accord tacite, enfin en tout cas...
Il n'a rien fait d'illégal.
Il n'a rien, voilà, dans le règlement, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais effectivement, souvent, on donne son 11 et c'est celui qui se présente sur le terrain. Là, il y a 2 choses. Mark Bryce a dit, oui, mais parce que quand j'ai vu qu'ils avaient une équipe si offensive, j'ai préféré réajuster le tir. Manque de bol, Mathieu Mertens de OHL a indiqué que depuis la veille, il savait que le joueur en question allait jouer. Donc, je pense qu'Mbaye Ley a eu le sentiment d'être pris pour un idiot, surtout avec les explications de Mark Bryce. Et là où j'ai trouvé qu'il était peut-être un peu de mauvaise foi, Mbaye Ley, c'est qu'ensuite, donc, quand on lui a parlé du match, Bryce a dit on méritait la victoire. Il faut dire aussi que Henri a mis une frappe sur le poteau qui aurait effectivement pu donner 0-2.
Abodar est battu.
Il est battu, ça pouvait donner 0-2. Et Mbaye Ley a dit on a joué contre une équipe qui a refusé le jeu, qui a joué en contre-attaque, en misant sur la vitesse de ses attaquants. C'était pas un match de football, car nous n'avions pas d'opposant. Alors, en tant que Français, je l'ai pris personnellement. Ça m'a rappelé une demi-finale de Coupe du Monde. Il faut que vous arrêtiez avec ça. Non, mais chacun joue selon ses qualités.
C'est n'importe quoi. Attends, pourquoi est-ce qu'il dit ça?
À mon avis, il dit ça parce qu'il est énervé du changement de joueur. Et donc, il a voulu un petit peu... Et puis, c'est vrai que... ils ont eu des occasions, mais il a trouvé que son équipe était peut-être pas si mauvaise que ça, et qu'elle aurait mérité pas la défaite, en tout cas, contrairement à ce que Mark Bryce pouvait vouloir dire. Et donc, ce qu'il a trouvé à dire, c'était essayer de rabaisser le niveau de son adversaire au HL. Didier?
Moi, je dirais plusieurs choses. D'abord, ça rejoint ce que je te disais, les équipes comme OHL, Westland, Beveren, Saint-Tron, franchement, c'est pas évident de prendre des points contre ces gens-là, pour les bonnes et des moins bonnes raisons. Et puis, pour parler d'Mbaye Ley, quand il était consultant à RTL, ce gars, moi j'ai rarement vu un consultant, et pourtant on en a vu défiler, des Georges Grün, des Philippe Albert, etc., avec autant d'analyses tactiques et autant d'analyses techniques et pertinentes de ce gars.
C'est ça qui me choque un peu, c'est qu'il ose avoir des propos comme ça alors que c'était un très bon consultant et il avait toujours la tête sur les épaules, quoi.
Bah tout à fait, mais à mon avis il a dû péter un câble.
Ouais, c'est peut-être l'adrénaline. Attends, parce que Mark Bryce il fait ce qu'il veut, s'il a envie de jouer à 11 derrière, s'il a envie qu'il joue en slip, enfin genre non. Il fait ce qu'il veut, ce mec. Franchement, est-ce que l'entraîneur du Standard de Liège, qui est l'adversaire du soir, va commencer à dire bon ben voilà, alors toi tu vas jouer avec 4 attaquants 3 défenseurs,
oui, c'est ça. Et moi, puis 4 attaquants. Se plaindre du fait que on n'a pas bien joué parce que l'équipe adverse proposait un jeu qui nous convenait pas. Bah oui, désolé.
C'est le but du jeu.
Et oui, c'est faire déjouer l'adversaire, quoi.
Je voudrais envoyer un message à Mbaye. Tu nous as déçu, garçon.
Non, non, on lui garde toute notre sympathie encore.
On t'avait salué toutes les semaines précédentes. Là, tu nous as. Tu
moi, je pense qu'il a été un petit peu vexé, peut-être qu'on le prenne pour un.
Ben non, si ça
un cornichon.
Il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas. Si ça se trouve, ils se sont peut-être chambrés.
Oui, ils se sont peut-être chambrés.
Ça l'a gavé, quoi.
Oui, c'est ça. Ça. Ouais, ouais.
À part ça, sur le match, c'est un scénario classique. Hein. Tu domines, tu marques pas.
Ouais, c'est
oui,
ça. C'est ce qu'on s'était dit.
Tu connais ça, en vrai.
Bah oui, c'est vrai.
Non, mais à la mi-temps, on se dit que le match doit être déjà. Mais oui, si ce n'est plié, au moins, ils ne doivent pas se faire des frayeurs pareilles. Le Standard, ils doivent être devant, Joao. Klaus
triplé là, c'est en première mi-temps.
Il doit en mettre, peut-être deux ou trois, c'est, et c'est vrai que ça.
C'est classique tourment comme scénario. Donc Mbaïlé peut avoir de mauvaises langues, mais s'il les met au fond, il tient pas le même discours sur la composition de Brest.
C'est vrai.
Et Brest va changer son jeu parce qu'il ne peut pas mettre le bus quand il est mené 2-0, donc il est obligé de se découvrir. Donc finalement, chacun joue son jeu et le match se déroule selon le scénario que le destin nous amène, quoi. Clairement.
C'est vrai.
Allez, Mbaye, reprends-toi.
Ça va pas durer longtemps.
Par contre, moi, j'ai l'impression que ça va être un grand coach.
Oui. Vraiment. Écoute, on lui souhaite.
Je le sens bien. Et je lui souhaite en plus parce que c'est vraiment une belle personne quelque part.
Oui, on est d'accord.
Ah, depuis les grands froids, là, il me déçoit un peu vestimentairement parlant. Il a sa veste qui change
multicolore.
Plus.
Multicolore.
Ouais, moi, je préférais ses costumes sur RTL. Ils étaient
on lui dira.
Plus beaux.
il faut se couvrir hein, dans ces temps de grand froid. C'est la mi-temps.
Mi-temps. Une bière, un hot dog.
Une bière, un hot dog. Je vous propose, en attendant, on va écouter le père de M. L. Louis Chédid.
Le fils de.
Facile.
Voilà.
Le fils de aussi.
Le fils de. Oui, elle s'appelle
René. On va manger Chédid.
René Chédid.
Chez toi, du coup.
Allez, ainsi soit-il, Louis Chédid.
L'action se déroule dans ta ville, vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, trop plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tout, 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 ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, 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 ainsi soit-il. Yeah, yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Dou 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 dou, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais. Personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Yeah. Tel est le nom du film. Rappeling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
ainsi soit-il. C'était donc Louis Chédid, une très jolie chanson. Le talent est congénital, hein, puisque comme tu le disais, Henri, sa maman est était une poétesse et son fils c'est M. Ils ont toute la famille, hein, c'est
toute
toi
la famille.
Qui nous avait fait...
Deux fils, une fille. Hein.
Ouais, qui sont tous chanteurs et musiciens.
Musiciens en tout cas.
Une belle fratrie, une belle famille. On revient au football, on a terminé la Pro League, mais on va faire un point quand même sur le classement. Le premier, c'est bien sûr le club Bruges, 14 points d'avance.
Pour l'instant,
sur l'Antwerp, deuxième. Troisième, c'est Genk, mais pour combien de temps encore? Parce que Genk, ça a l'air d'être la...
C'est un championnat de dynamique.
Ouais,
hein.
Exactement. Il reste plus... Et il y a déjà 26 matchs de jouer. Quatrième, Anderlecht. Il reste que 8 matchs, voilà. Il reste que 8 matchs, donc il y a peut-être le temps de la place pour deux petites séries, si vous voulez. Si ça marche pas bien maintenant, va falloir enchaîner beaucoup de matchs.
On rentre dans le money time. Là.
Et on rentre dans le money time et on va donc justement parler des quatre équipes qui sont derrière en chasse, hein, je dirais. Même 5 équipes. Ostend et le Standard comptent 39 points. 7e Charleroi, 38 points. Et 8e le Berscott et OHL, 37. Ça me semble les 5 équipes qui pourraient s'immiscer dans la...
Hein.
Ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Genk, ils sont vraiment sur une mauvaise dynamique. On notait qu'en fait, ouais, depuis le changement d'entraîneur,
ce qui va être génial, c'est que toutes les équipes qui se disputent cette quatrième place, il n'y en a aucune qui va pouvoir, même en allant en déplacement, se satisfaire d'un match nul.
Non.
Parce qu'un match nul, ça équivaut à une défaite quelque part, donc tout le monde va jouer pour gagner. Et donc, en principe, au niveau spectacle, pour le spectateur neutre, ce sera une excellente chose.
Eh bien, et du spectacle, on en aura sans doute. Alors, en milieu de semaine, on va en parler quelques instants, on aura la coupe. Mais la semaine prochaine, on a donc une journée de championnat qui va se jouer à partir de vendredi prochain. On a des matchs intéressants. Ostend contre Genk, c'est samedi. Comme je le disais, Genk...
Malheur au vaincu.
Il y a un très beau Standard Antwerp aussi. Ça ressemble à une dernière chance pour le Standard s'ils veulent accrocher le bon wagon, parce que, en tout cas, ils laisseraient filer très loin l'Antwerp s'ils ne gagnaient pas. Anderlecht sera à Bruges, mais pour y affronter le cercle. Et Charleroi recevra le club Bruges. Donc là aussi, pour Charleroi, il va falloir faire un exploit pour pouvoir rester. Bon, il reste 8 matchs quand même, mais bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et surtout, ce sera le match qu'on attend tous ici. Le 28 février, on aura Standard Anderlecht. On a le temps de voir venir encore.
Ils seront déjà loin à ce moment-là.
Juste encore un petit mot pour revenir sur le derby anversois. Sur Lior Rafaelov, pour le même prix, il a une carte rouge parce que Van Aken n'y a pas coupé. Et c'est exactement le même style de faute. Il n'y a aucune intention de blesser le joueur, mais clairement, le pauvre gardien, lui, il a dû le sentir passer solidement. Ça aurait pu être extrêmement grave et il n'a même pas une jaune en plus. Donc c'est particulier.
Ouais.
Mais bon, comme quoi, c'est à l'appréciation de l'arbitre.
Voilà, on en reparlera tout à l'heure.
Ça m'étonne que le VAR n'ait pas intervenu.
On parlera du VAR aussi.
Il a fait parler ce week-end dans tous les championnats.
La Coupe de Belgique se dispute en milieu de semaine. On a deux superbes affiches. Déjà, on a le leader contre le deuxième. Le club Bruges reçoit l'Antwerp mercredi soir. Mais c'est surtout le match de jeudi qui nous intéresse au plus haut point. Le derby bruxellois. Puisque c'est l'Union qui reçoit Anderlecht.
Qui sourit.
Et sans supporters, c'est quand même triste.
C'est quand même triste.
La dernière fois que ça s'est passé, l'Union s'est qualifiée. Hein. C'est
0-3.
À 2 ans, si je me trompe pas.
0-3.
Mm-hmm. Avec un doublé de Persito.
Exact.
Et Niakate.
Exactement, Niakate. Ouais.
Eh ben écoutez, on souhaite rien. Je dis pas. Non, moi je reste tout à fait neutre, mais j'aime bien. Mais t'as raison, c'est vrai que sans les supporters,
C'est dommage.
Ça rend l'affaire quand même moins chouette, moins.
En termes
moins
de motivation, je suis pas sûr. Je pense que les unionistes vont être gonflés à bloc comme jamais. Pour eux, c'est le match de l'année. Parce que même s'ils se font éliminer le tour d'après par 6-0, avoir battu Anderlecht, ce sera vraiment une lettre de noblesse. Même si c'est une bête blessée, on pourra dire ce qu'on voudra. Anderlecht, ça restera. Les grandes équipes ne meurent jamais.
Quoi qu'il arrive, le parcours de l'Union, chapeau, quoi.
Bien sûr, la saison
en général.
Bah, ça fait déjà 2 saisons. Hein.
Ouais.
3 même.
Ouais,
juste souligner l'Olympique, quand même, qui a battu Zult.
Oui.
Ouais.
Je vais juste souligner ça. L'Olympique de Charleroi. Il y a toujours un petit poussé qui fait un exploit. Cette année, c'est l'Olympique.
Ouais, ben on les félicite, on les salue.
Je vous salue, Marie.
Ceux qui nous écoutent beaucoup. Pays Carolo, on nous écoute beaucoup. Donc,
on nous écoute partout.
C'est vrai que ce n'est pas que sur la FM, puisque vous pouvez nous retrouver donc bien sûr sur 90.2 FM, mais également sur Radio Judaïka.
www.radiojudaïka.be
et également sur la chaîne Spotify, dont joue la prolongation. Voilà, on a tout bien dit. Je vous propose de passer à la Première Ligue. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le choc du week-end en Europe. Un match qui a tout l'air d'avoir été une passation de pouvoir entre Liverpool, champion en titre, et Manchester City, son second de l'année dernière et champion de l'année d'avant. Que dire ?
Dans les chiffres, je suis d'accord avec toi, c'est une passation de pouvoir. Par contre, pour avoir regardé tout le match, j'imagine que c'est ton cas aussi. Mm-hmm. Franchement, le score est flatteur, est flatté. Il y a deux erreurs monumentales, on y reviendra peut-être, du gardien de Liverpool. Et je pense qu'ils doivent...
C'est exact.
Non, c'est pire. C'est... Et surtout, ils doivent regretter que Mignolet est à Bruges, parce qu'à mon avis, voilà. Mais sur le terrain, c'était pas cette vérité-là. Liverpool a été juste incroyable pendant 60 minutes. Hein.
Ouais, la première mi-temps, un petit peu comme c'est les équipes au maillot rouge, comme le Standard, ils doivent rentrer au vestiaire avec de l'avance. Il y a une tête de Sadio Mané, il est tout seul. Il y a un beau centre de Alexander Arnold et il met sa tête au-dessus. Il est tout seul au 5-50. Il y a une belle frappe de Firmino aussi après un renvoi qui est détourné par Ederson. Il faut noter qu'il y a un pénalty qui a été loupé par Gundogan en première période.
Alors, c'était bien comme il faut, hein. Ouf.
Mmh. Ouais, il l'a bien mis au-dessus.
La station se plaçait à l'international et l'a vu passer. D'ailleurs.
Alors c'était le 23e pénalty obtenu en Première Ligue par Sterling, c'est le joueur qui en a obtenu le plus. Et c'est amusant que il a loupé parce que certains commentateurs insistaient sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui loupaient les pénaltys contre Liverpool. Et donc, sur le fait que le gardien de Liverpool, Alisson Becker, était impressionnant.
Ah, il en impose.
Et faisait des jouets. Et malheureusement pour lui, puisqu'on va en parler. Donc, à la 49e, but de Gundogan, une infiltration de Sterling à gauche. Une frappe de Foden, un rebond de Gundogan et ça fait but. L'égalisation va venir, c'est un pénalty concédé par Ruben Dias qui accroche Salah bêtement à l'entrée de la surface. Lui, Salah ne trempe pas, il marque et on se dit à ce moment-là qu'il y a un partout. On est à la 62e, il va rester 30 minutes de folie, il va se passer plein de choses, mais pas exactement comme on l'envisageait,
non, du tout.
Puisque ça va être à sens unique et la faille va venir de là où on l'attendait pas du tout. C'est-à-dire Alisson Becker qui avait mis le masque de Loris Karius.
souvenir,
Loris Karius qui était le gardien de but qui a coûté, on peut le dire, une finale de Coupe d'Europe.
C'est pas le meilleur ami de Simon.
Non, pas le meilleur ami de Mignolet, mais c'est lui qui jouait à la place de Mignolet l'année où ils ont perdu contre le Real Madrid en finale et où Ramos avait déboîté l'épaule de Salah aussi. Il n'avait pas fait le voyage pour rien. Et donc, à la 70...
Comme rarement, d'ailleurs.
Non, c'est vrai. Mais il verra quand il sera mis sur le banc.
Par McGuire.
À la 73e minute, il y a une action assez incroyable et incompréhensible quand même. Alisson est à l'entrée de la surface. Et
c'est le gardien, on le rappelle.
C'est le gardien, voilà. Il a le ballon au pied et il ne dégage pas. Et il semble très embarrassé soudainement avec le ballon. Il le glisse tant bien que mal à Fabinho sur son côté, mais on sent que la passe est déjà pas appuyée, elle n'est pas bien assurée. Fabinho dégage loin et le ballon rebondit, il est mal contrôlé, mais il revient sur Fabinho qui, après donc des contrôles et des passes qui ont été mal assurées, le ballon lui revient, il décide de la remettre en retrait à Alisson qui, 5 secondes avant, a déjà fait une passe qui était très 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 limite. Et là, c'est la mauvaise idée, puisqu'Alisson fait un dégagement qui va arriver directement sur Foden, qui se trouve à 25 mètres du but, légèrement sur la droite. Il s'infiltre, il centre pour Gundogan dans le petit rectangle, et ça fait but. Ça fait but, et donc il a fait deux erreurs au pied sur la même action. Donc on se dit, comme on dit
c'est
souvent,
pas son jour.
C'est pas son jour, il vaut mieux en faire deux deux erreurs au pied sur une même action que, eh ben, lui, il va faire les deux puisque c'est pas fini. Deux minutes plus tard, les joueurs de Liverpool vont même pas l'aider tellement puisqu'ils vont continuer à le solliciter, au jeu au pied.
C'est ça qui est, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. C'est qu'il continue. En plus, c'est pas des bonnes passes qu'il
lui met. Non, exactement. Enfin, c'est ça qui est assez incompréhensible, ou en tout cas, on peut pas complètement, charger le pauvre Becker.
Ah, attends, ça fait six mois qu'il a pas joué, le gars. Il revient, c'est son premier match contre City. On lui met deux ballons qui étaient deux grenades dans les pieds. Enfin,
franchement. Non, mais sur le deuxième,
le premier,
surtout.
Je suis d'accord, mais le deuxième, on lui remet une passe.
On lui remet deux fois. Hein.
Il a le temps tranquille.
Ouais, mais
dégager.
Dans sa tête, il a toute la première action qui tourne pendant 30 secondes.
Attends, excuse-moi, c'est même pas un dégagement raté. Il fait une passe à l'attaquant de Man City. Hein. C'est même pas une passe ratée.
Mais avant ça, moi ce que je pense.
C'est daltonien, le mec. Hein.
Non, mais je pense qu'il y a un enchaînement. C'est-à-dire que. Il fait donc deux interventions au pied qui sont pas bonnes sur le but qu'il encaisse. Puis deux minutes après, donc il y a Fabinho, il y a une passe en profondeur, Fabinho coupe l'attaquant qui part, il la remet au gardien de but. Bon, jusque là c'est pas mal. Alisson la remet à Fabinho.
Enfin, veut la remettre.
Veut la remettre. Non, d'abord il la remet à Fabinho. C'est une passe qui est pas terrible. Et Fabinho la remet sur Wijnaldum, qui lui, c'est lui qui panique un petit peu aussi, et qui la remet à Alisson Becker, qui là, fait une relance encore au pied, qui, ça s'était écrit, loupe complètement sa relance, il fait une petite
course. C'est pas une relance, c'est une passe latérale.
Une passe latérale pour Fabinho, qui était resté sur le côté. Et elle arrive directement sur Bernardo Silva.
Parce que c'est même pas une passe interceptée, hein. C'est vraiment le ballon, il le donne.
Il lui arrive dans les pieds.
C'est pour ça que je pense que vraiment là, c'est même pas. On peut même pas parler d'erreur technique. C'est, je pense, vraiment dans la tête. C'est dans la tête. Oui, Henri.
Je sais que toi, t'es fan de statistiques. Ce serait intéressant en fin de saison, parce que c'est une nouvelle tendance quand même, cette relance au pied, même dans le rectangle, on se dépasse, etc. De savoir quel est le bénéfice et le problème.
Bah c'est vrai que c'est une nouvelle tendance et parce qu'il y a cette nouvelle règle qui fait que maintenant on peut.
Elle ne doit pas sortir du rectangle.
On peut entrer, c'est ça. Avant, on ne pouvait pas intervenir sur une relance au pied. Il fallait que le ballon sorte de la surface. Maintenant, les défenseurs peuvent rentrer dans la surface.
Sur cette nouvelle tendance, ce serait intéressant qu'un jour il y ait une étude sur le bénéfice.
On va demander aux statisticiens de Vincent Compagnie parce que
je pense que le bénéfice il est là parce que sinon ça aurait déjà été longtemps fini et que tous les grands clubs jouent comme ça donc
mais le prix à payer est cher quand même.
Ouais, mais je pense que c'est des tendances.
Si tu encaisses 4 goals et que t'en mets 5, t'en as rien.
C'est des tendances, il va y avoir peut-être un moment où par réaction, c'est-à-dire que si vous faites des relances courtes en vous disant il faut qu'on construise le jeu depuis notre but. Les attaquants adverses vont venir faire le pressing et à ce moment-là, ce sera peut-être plus efficace d'envoyer des ballons.
La fameuse passe laser.
Ouais. Quand tu vois par exemple à Bruges, puisque Mignolet, il prend des risques aussi assez inconsidérés parfois et ça a déjà coûté quelques buts, mais en même temps, combien de prêts
d'accord,
assistes
combien
il a
est-ce que
déjà
ça
donné,
fait
c'est ça. Parce que quand la relance passe bien, donc on a déjà passé une ligne. Si on dégage, comme on faisait dans le temps, le coup de pied de but, on dégage.
Sur deux, c'est pour l'adversaire.
Et oui, ça aussi, c'est que tu perds directement la possession du ballon.
Tandis que si effectivement tu fais une relance au pied et que tu passes la première ligne, t'es encore dans ton camp, mais t'as déjà éliminé des adversaires.
Mm-hmm. C'est vrai. Mais le ballon est proche de ton but. Ce qui fait que n'importe quelle perte de balle te met en difficulté. Ah, mais t'as raison.
Ça attire les joueurs de l'autre équipe à venir faire un pressing. Ce qui veut dire que, comme dit Henri, si tu passes ce cap-là,
t'as déjà éliminé.
T'as de l'espace devant toi pour aller.
C'est ce qu'André t'a fait sur le deuxième goal, sur le premier goal. Donc ils arrivent à ressortir correctement. Avant qu'il ait la longue passe, le changement d'aile, et puis l'action continue.
Ouais, parce qu'il il a plus qu'une ligne de défenseur devant lui. On revient sur ce match, Bryn Larsson, il a plus qu'une seule ligne de défenseur face à lui, alors qu'il est à la moitié du terrain.
Et même latéralement, il peut rentrer dans le terrain.
Ouais. Donc c'est vrai. Et là, ils l'ont super bien fait. Ils ont réussi à faire sortir six joueurs de leur zone, et du coup, pouvoir partir tout droit, tout seul.
J'ai l'impression que les statistiques dont tu parles, Henri, il faudrait les faire à deux vitesses, parce que j'ai l'impression que les grosses cylindres. Parce qu'il faut être capable de faire.
C'est ça.
Techniquement, il faut être capable. Donc, il faudrait voir le ratio global de tout le football européen. Je suppose qu'il y a des gens qui se lèvent le matin avec cette idée-là.
Oh, il y a des data, c'est
la
grande tendance.
Et puis, de voir aussi ce qui se passe au niveau des grosses écuries. Parce que là, j'ai l'impression que le ratio est bien plus positif que négatif. Parce que quand tu vois les facultés techniques de ces gardiens et ces défenseurs,
c'est ce qui poussait.
Mais les grosses écuries, elles jouent des matchs super importants. Elles jouent la tête du championnat. Elles jouent les Coupes d'Europe. Quand tu prends un goal en Coupe d'Europe, à la maison, c'est
ça se voit. C'est rare
de voir ça à ce niveau-là.
Ces équipes ont une telle maîtrise technique, c'est un petit peu, je rapprocherais ça du corner. C'est-à-dire qu'en Angleterre, par exemple, et enfin tout le monde, on est content quand notre équipe obtient un corner. Alors que si on regardait les statistiques, on marque un match sur 10, je crois qu'il y a un but sur corner. Ce qui a fait que les joueurs du Barça à l'époque de Guardiola jouaient plus les corners, ils les jouaient
à la rémoise
et même plus qu'à la rémoise, puisque les Rémois ils faisaient une petite passe pour ensuite un centre où ils rentraient. Eux, c'était on ressort carrément le ballon et on tourne autour de la défense. En se disant, on est plus à l'aise avec nos pieds, mais le ballon à 30 mètres du but, que d'envoyer une balle devant le but, mais pour qui être prise de la tête, qui va peut-être. Voilà.
Puis ils avaient personne au-dessus d'un mètre 80.
C'est ça. Chacun s'adapte. Mbaye, il aurait pas été content. Non.
Vous devez tirer les corners.
Ça se tire comme ça, les corners. Oh. Donc, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il faudrait sans doute. Ça s'arrêtera les jours où on arrêtera le contre-pressing, peut-être. Enfin, le pressing à tout va. Les équipes qui vont dire, nous, on reste dans notre camp où on ne monte pas tellement faire le pressing sur la défense adverse.
Comme Valère Zerbrouck qui met trois attaquants.
Ouais, il y aura peut-être plus de bénéfices à essayer de relancer très, très court et à essayer de faire sortir l'autre équipe.
Je pense que ça va surtout ça fait évoluer le football parce que ça oblige d'abord les gardiens à être bons au pied. Mm-hmm. On ne leur demandait pas ça dans le temps. Les défenseurs centraux.
Alisson, si tu nous écoutes.
Non, mais tous.
C'est vrai.
Je crois que ça tire vers le haut.
Pour aller sur ta route, il y a 3 ans, je pense, Pep Guardiola a viré Joe Hart de Manchester City pour y mettre Claudio Bravo, alors que sur le papier ils sont à peu près égaux. C'est juste que Joe Hart savait pas jouer au pied, et donc il l'a viré pour mettre Bravo, qui au final n'a fait qu'un an où il était pas bon, mais parce que lui il savait jouer au pied. Ouais, il y a plein de joueurs comme ça qui changent principalement des gardiens pour avoir un gardien qui sait, ou des défenseurs centraux pour avoir des mecs qui savent jouer au pied. Et on reprend Guardiola parce que c'est lui le meilleur dans cet exercice, mais quand tu regardes disons 4-5 défenseurs centraux, t'as pas un mec qui est là qui est connu pour mettre des gros coups et mettre des savates devant. C'est que des mecs super techniques.
C'est rassurant pour les défenseurs d'avoir un gardien. Tu sais que tu lui passes
qui peut faire un dribble, qui peut faire.
Voilà.
Bien sûr.
Est-ce que De Skaak t'aurait fait la même carrière? Mais non, mais c'est vrai. 40 ans, le garçon.
Ouais.
Exact.
Donc oui, voilà, on va terminer sur Liverpool City et les déboires de ce pauvre Alisson Becker, qui est un gardien de but formidable à part ça et qui a eu vraiment un match sans.
Il faut pas.
C'est pas Loris Karius.
J'ai une question qui fera peut-être pas plaisir à Mbaye, mais quand même. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager sur des corners, comme au rugby, un joueur qui en soulève un autre?
Ah, c'est interdit.
C'est interdit, vraiment. Mais pour quelle raison, finalement, ça enlève?
Parce que c'est pas du rugby.
Je vois pas pourquoi.
Parce que maintenant on peut se coucher pour empêcher un coup.
Je crois qu'on n'a pas le droit de porter.
Les règles sont les mêmes, que ce soit un adversaire ou un partenaire. Donc tu insultes un partenaire, tu prends le même carton rouge que si tu insultes un adversaire. Donc tu peux pas soulever un adversaire, tu pourras pas soulever un partenaire. C'est les mêmes règles.
Donc tout le monde a une carte rouge après un goal, quoi, parce que tout le monde s'embrasse, tout le monde se saute dessus. Donc voilà, enfin avant Covid.
Avant, bien sûr. Donc Manchester City a fait un très grand pas vers le titre. Quels pourraient être leurs derniers adversaires?
Eux-mêmes.
Mais pourquoi pas?
À côté.
Ouais, mais il faut pas me couper le truc.
Pardon.
Pourquoi pas Manchester United?
Pardon.
Non. On en a parlé.
Non.
En tout cas, c'est eux qui sont deuxième au classement avec 5 points à 5 points quand même de City
et un match en plus.
Manchester United a fait un beau match, c'était un match plaisant, 3-3 contre Everton, mais un match qui a, selon moi, montré toutes les limites de Manchester United, qui peut être brillant en attaque, avec 3 joueurs qui, quand ils sont vraiment bons, sont vraiment très très bons, Bruno Fernandes, Rashford et Cavani, qui a le sens du but quand même, comme peu de joueurs, ils ont marqué... Bruno Fernandes, pas Rashford, qui a jamais marqué contre Everton. Fernandes, il a marqué un but, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a une passe latérale, il laisse passer le ballon déjà. La balle lui revient, il fait une feinte de centre, le défenseur qui est devant lui se décale pour se mettre sur la trajectoire éventuelle du centre. Et puis là, il lève la tête, il voit que le gardien est un petit peu avancé, et boum, il frappe et bute. Et c'est vraiment très soudain.
J'ai vu une stat assez impressionnante sur les 37 derniers buts marqués par Manchester United, il est impliqué sur 35, Bruno Fernandes. Quand même, ça montre l'importance du joueur dans l'effectif, parce que avant qu'il arrive, ils étaient un peu à la rue, enfin c'était avant le confinement.
C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt.
Il y avait Solskjaer aussi.
Bah ouais, mais justement, j'allais rebondir là-dessus. Vous allez peut-être m'accuser de faire une fixette, mais je pense pas qu'il puisse être champion avec cet entraîneur-là. Enfin,
C'est-à-dire que la stat, je la connaissais pas, mais maintenant que tu la donnes, effectivement, ils ont un joueur qui est très bon. Mais si on retire,
comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépassé.
Ah oui, parce que le reste de l'équipe, c'est pas terrible. Pogba, qui a été champion du monde il y a 2 ans, il est complètement invisible. Il s'est encore blessé ce week-end. Et la défense, nous, c'est un petit peu notre...
être vous manque et tout est dépeuplé, je suis pas de ton avis, hein, parce que City est allé gagner à Liverpool sans Kevin.
C'est vrai qu'il manque.
Je voulais parler de James Rodriguez.
Ah oui, qui a mis
C'est incroyable, ce garçon, quand même.
Ouais.
Il est surdoué, je crois.
Ouais, c'est la vie nocturne, Henri.
Tu crois?
Ah, c'est sûr, c'est prouvé.
C'est ça, à Madrid,
c'est connu, ouais. C'est un...
Quel joueur?
Il aime beaucoup faire la fête.
Ouais, c'est vrai.
Là, on est à Madrid, là, on peut en parler, maintenant.
Ouais. Lui, il est à Everton, ouais.
Non, mais je dis,
ah oui, on va en parler.
Juste un instant, je voudrais juste... 19 ans... Le Foyden,
quel joueur,
c'est waouh.
Il a mis un, donc oui, il termine
presque au niveau de Noah Lang.
Quatrième but marqué par City, c'est une frappe monstrueuse sous la transversale, magnifique. Et ce qui faisait dire à Blaise tout à l'heure qu'ils vont avoir quand même une sacrée équipe.
Le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, ça va.
Les Anglais, ils ont une
plus solide. Hein.
Ça, c'est une pépite. Hein.
Une belle équipe. Pour terminer avec le championnat anglais et passer au reste...
J'ai juste un truc à dire sur le championnat anglais. Mathew Ryan a fait sa première titularisation avec Arsenal et ils ont perdu 1-0.
Toby Alderweireld jouait pour Tottenham, bien sûr, le club de l'ami de Didier, de José. 2-0 pour Tottenham. Pourquoi? Tout simplement parce que Harry Kane est revenu. Il y a une Kane-dépendance, comme on dit dans toutes les émissions. Il y a une Kane-dépendance. Il n'était pas là. Ils ont perdu 2-1-0. Là, il est revenu. Il a marqué. Son a marqué aussi. Très bien. Tant mieux pour eux. Au classement, oui, il y a Leicester qui s'est intercalé entre United et Liverpool.
Ils ont fait match nul, je pense.
Ouais, 0-0. Yuri est pourtant plutôt bien joué, mais voilà.
C'est de bon augure.
C'est de bon augure. Je vous propose, il nous reste 10 minutes, on va faire 5 minutes sur la France. C'est tout. Et après, on finira par les Diables. 5 minutes sur la France, pourquoi? Parce qu'il y a eu une semaine quand même assez incroyable en France. C'est parti en vrille complètement à Marseille. Pour résumer rapidement, Blaise, tu veux résumer rapidement les événements clés, les événements phares de la semaine. Donc, le week-end dernier, il n'y a pas eu de match puisque les supporters de Marseille avaient pris d'assaut la commanderie, le centre d'entraînement. Donc, le match a été reporté. Lundi, c'était la fin des transferts.
Et mardi, en conférence de presse, André Villas-Boas arrive et déclare tout simplement qu'il a posé sa démission. Le club ne l'avait pas encore accepté à ce moment-là et il a dit qu'il avait posé sa démission parce que le club avait recruté un joueur dont il n'avait pas donné l'accord pour le recruter. Mais bon,
visiblement, il dit même qu'il l'a refusé. On lui a pas soumis, c'est qu'on lui a soumis, il a dit non. Et ils l'ont quand même recruté. C'est Olivier Ntcham qui joue au Celtic.
Et en fait, de ce que j'ai vu et moi-même de mon expérience personnelle, en fait, personne ne lui en veut parce que il a dit en conférence de presse ce que tout le monde pense, mais ce que personne n'avait jamais osé dire, que la politique sportive de ce club était à la rue. Et il l'a dit devant toutes les caméras. Et donc, je pense qu'en fait, c'est lui, ça lui a offert son petit billet de sortie où en fait. J'ai vu aucun supporter de l'OM qui lui en voulait parce que lui, il a ramené le club en Ligue des Champions. Il a fait de cette équipe qui était à la rue complète quelque chose. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc maintenant, c'est le directeur du centre de formation qui est sur le banc jusqu'à preuve du contraire.
Tu vas nous donner une petite info peut-être après. Juste pour terminer sur sa conférence de presse un peu lunaire. Donc il a dit, je ne veux rien. Pas d'argent, pas d'argent de l'OM, pas d'argent de Franck, McCourt.
L'argent de Franck,
je veux pas. Donc il a dit très bien. Et pour que ça se termine encore plus de manière surnaturelle, l'OM a mis à pied Villas-Boas. Le mec avait démissionné, mais non, ça leur a pas suffi. Mais pour une question d'ego, ils ont dit non, c'est pas toi qui décides quand tu pars, c'est nous qui décidons. Donc il y a une procédure entre eux. Ça c'était le côté ça part en vrille à Marseille. Le foot français a enfin trouvé cette semaine une chaîne pour diffuser les matchs, puisque je vous rappelle que Mediapro, un groupe sino-espagnol qui avait proposé 1 milliard d'euros au président de club français, qui avait cru que c'était normal que pour voir Angers-Metz, il y a des gens qui payent 1 milliard d'euros.
25 euros par mois l'abonnement quand même, pour voir Angers-Metz.
25 euros pour voir Angers-Metz et Lorient-Brest. Donc la chaîne a fait faillite avant même d'avoir commencé. Et donc le foot français se retrouvait avec une échéance qui était la fin du mois de janvier. Puisqu'il n'y avait plus de diffuseurs. Canal Plus est venu en aide au football français en remettant au pot. Mais Total, le foot français qui espérait gagner 1 milliard 150 millions d'euros par an, va se retrouver avec un peu moins de 700 millions, ce qui fait 50% quasiment de perte. Allez, 680 000.
Manque à gagner,
voilà. Oui, mais ça va se transformer en perte parce qu'eux, ils avaient déjà des contrats.
Il ne faut pas dépenser l'argent de la loterie avant d'avoir reçu son chèque.
Exactement. Mais malgré tout ça, vous fichez du championnat de France, Steve surtout, qui n'est pas là ce soir depuis longtemps, mais pour une fois, on a un vrai championnat, puisqu'on a 4 équipes qui se sont vraiment détachées. Il y a un gouffre entre le 4e Monaco et le 5e, qui doit être Rennes. Monaco a 48 points 4e, le PSG 3e 51 points, Lyon 2e 52 points, et premier Lille avec 54 points. Et à Lille, on retrouve depuis 5 matchs un joueur qu'on a bien connu de ce côté-ci, de la frontière, Jonathan David, qui est enfin performant. Il a vraiment pris son envol.
Il a pris de ses marques.
Mais
Paris 3e, ça ne doit plus être arrivé depuis...
Paris 3e, non, ouais, là, ce stade de la saison, 2017, ça fait.
Enfin, ouais, non.
Mais bon, on verra.
Non, moi, franchement, enfin, genre, c'est pas du tout parce que je suis pour l'OM et j'en ai absolument rien à faire qui va être champion, mais je mettrai une petite pièce sur Lille quand même. Franchement, c'est une super équipe.
Ouais,
et là, enfin. Pour terminer rapidement, Jonathan David était interviewé dans l'équipe ce week-end et il disait ce que tout le monde savait, mais on doutait un peu qu'il lui avait fallu un temps d'adaptation. Et là, il en est à 4 buts en 5 matchs, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, il est parti et cette équipe, elle est complète. Enfin, c'est parfait.
Ouais,
ils ont tous les joueurs parfaitement au meilleur poste. Quoi.
L'attaquant turc, là.
Yılmaz,
Yazici aussi. Et il y a le retour de Renato Sanchez. Mm-hmm. Vous vous souvenez du. Ce jeune Portugais qui doit être encore très jeune, il doit avoir 22 ans, et qui a été champion d'Europe avec le Portugal, qui était parti au Bayern.
Contre qui ?
L'équipe de France, on le sait. Donc voilà, et alors...
Très moche finale d'ailleurs en plus.
Ouais.
Très
moche finale.
Gignac.
Ah bah tiens, Gignac, on le salue. Gignac, il a qualifié son club des Tigresses de Monterrey pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs, puisqu'en ce moment, on n'a pas assez de foot en Europe. Donc le Bayern Munich est allé au Qatar, c'est au Qatar, je crois.
Ouais, c'est ça. Et il joue contre Al Ahly ce soir. Al-Ali, le nouveau club de Mbaye Niang.
Edmilson. Il n'y a pas Edmilson là-dedans ?
Non, Edmilson, il a failli venir à Bruges d'ailleurs. Ils ont l'été dernier, mais bon.
Et oui, en France, il y aura peut-être un avantage pour l'OL et Monaco dans cette lutte à 4 parce que c'est les deux seuls qui ne jouent pas de Coupe d'Europe. Donc eux, ils n'auront qu'un match par semaine, là où Lille et le PSG, enfin on leur souhaite en tout cas, en auront deux pendant le plus longtemps possible. On va terminer l'émission, il nous reste 5 minutes, en parlant des diables et en parlant surtout de d'un diable, le plus grand, c'est pas le plus grand par la taille, mais... certainement le plus grand par le talent, c'est Eden Hazard.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'aile ou la cuisse ?
L'aile ou la cuisse, voilà. Malheureusement, c'est la cuisse. La nouvelle blessure musculaire. Et moi, j'en viens à me demander si trop, c'est pas trop. Et si il n'y a pas... Parce qu'autant, il y a plein de joueurs qui sont blessés parce que les rythmes ont été fous. Lui, c'est même pas le rythme de jeu qui peut l'avoir mis comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup joué la saison passée. Il n'a pas de rythme. C'est pas le fait d'avoir trop joué qui l'a usé. Moi, je me demande si c'est pas dans la tête et s'il y a un moment où, quand dans votre tête vous êtes pas bien, ça entraîne mécaniquement peut-être une plus grande propension à se blesser.
Moi, j'ai envie de dire.
Et donc, en finale, en creux, est-ce qu'il doit pas partir du Real Madrid ?
Moi, je pense que oui. Et je t'avoue que, enfin, qu'il doit partir, j'en sais rien, mais parce que c'était le rêve de sa vie de jouer au Real. Donc, il faut pas l'oublier. C'est pas un mercenaire, le gars. Il a eu le choix, l'embarras du choix.
Ouais, et puis il est resté à Chelsea quand tout le monde le voyait partir. Et
puis moi, je t'avoue qu'au moment où on a évoqué son transfert, je le voyais plutôt rentrer dans le schéma de jeu d'un Barça plutôt que du Real Madrid. Alors, je ne sais pas comment l'affaire se sera terminée et on le saura jamais. Mais d'un autre côté, je pense qu'à la différence de Messi ou d'autres, ou Neymar à l'époque du Barça, Je pense qu'il a, on fait des fautes sur lui, mais qui sont juste des boucheries, et que les arbitres, parce que ce n'est pas Messi, et parce que ce n'est pas Neymar, et parce que ce n'est pas Ramos, je pense qu'il faut protéger des joueurs comme ça, et j'enfonce une porte ouverte en le disant, parce qu'il y a, je dis, il y en a d'autres qui, ouais, moi qui le disent depuis des années, mais c'est vrai qu'il a un traitement, mais c'est juste monstrueux ce qu'on lui fait chaque fois qu'il est sur le terrain.
Moi, il y a tout ça. Je me pose des questions sur le staff médical quand même.
Ouais, ça, c'est quand même le staff qui a réussi à gagner 3 Champions League d'affilée, oui, qui a réussi à garder des joueurs sur pied.
Parce que si on l'a fait rejouer maintenant, et qu'il se blesse musculairement, c'est pas un coup, c'est pas un truc.
C'est qu'il a redémarré trop tôt, mais ouais. Attends, à chaque fois on dit quand est-ce qu'il reprend Hazard, quand est-ce qu'il reprend Hazard. Zidane le fait jouer 50 minutes, Zidane le fait jouer 60 minutes, au final ça marche pas et il se reblesse à l'entraînement. Il y a un souci, je sais pas lequel c'est, mais
on essaiera peut-être d'avoir un médecin d'ici peu pour lui poser la question. Moi j'ai l'impression que c'est dans la tête. Il y a un joueur, j'arrive plus à penser, le nom du joueur me revient plus en tête, mais je sais qu'il y a un joueur comme ça qui s'est retrouvé à être cramé par les blessures, et c'était vraiment beaucoup dans la tête. C'est Ressé, non.
Alors, qui a retrouvé un club, d'ailleurs.
Qui a retrouvé un club. Je me demande s'il serait pas temps. Et on a parlé cette semaine d'un intérêt, alors c'était une rumeur peut-être, de Chelsea pour qu'il revienne. Alors je sais pas si pour lui c'est une chose qui est envisageable, ou comme tu le disais, Didier, comme c'était son rêve de jouer au Real, peut-être revenir, il aurait l'impression de régresser.
Moi, je pense qu'il va rester. Enfin, je vois pas, déjà, parce que le Real va pas le brader, donc je vois pas quel club pourrait mettre.
Ils ont payé
120,
personne va mettre 80 millions, disons. Donc, moi, je pense qu'il va rester. Et puis, l'année prochaine, de toute manière, apparemment, Zidane sera plus là. Ils vont recruter Mbappé, Haaland. Enfin, voilà, quoi.
On se calme.
Ça va mal pour les hasards.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Les trois hasards sont sur la touche, pas pour les mêmes raisons, mais Thorgan est blessé et Kylian, je crois,
écarté.
Voilà.
Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a plus de hasard. Écoutez, on a été ravis de passer 7h30 avec vous, de jouer la prolongation avec vous sur Radio Judaïka 90.2 FM. Merci à toi, Didier.
Avec plaisir. Merci à toi, Sam.
Avec plaisir. Merci, Henri. Merci beaucoup. Et merci, Blaise.
Merci
pour ta présence, pour votre présence ce soir. On vous salue et on vous dit à tous à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.